Invité de France Inter, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour.
Comment le ministère de l'Économie et des Finances précisément est mobilisé sur le dossier Irma? On a surtout vu d'autres ministres en première ligne, l'Intérieur, la Santé, les Armées, avec Matignon.
Bien sûr. D'abord, le ministère de l'Économie et des Finances est mobilisé essentiellement dans la phase aval de ce type d'événement. Ça n'est pas la première fois, notamment en termes de mobilisation des assureurs par la Caisse centrale de réassurance qui ce matin évalue environ un peu plus d'1,2 milliard les dégâts. Alors il y a encore un travail d'enquête à faire. Le principe est assez simple, c'est que au maximum 3 mois après la survenance de ce drame, l'ensemble des personnes assurées devra être indemnisé et l'État garantira pour l'essentiel les besoins financiers.
Et celles qui ne sont pas assurées, est-ce qu'elles seront quand même aidées par l'État ?
Écoutez, l'État, par définition, jouera le principe de solidarité nationale. À nouveau, l'ampleur des dégâts est telle qu'on a besoin d'avoir de manière assez exhaustive ce qui sera nécessaire de mobiliser. Moi, je souhaite attirer l'attention sur une initiative, si vous me l'autorisez, qui s'appelle les Artisans du Cœur. Je vous invite à aller voir lesartisansducœur.fr. C'est organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis, dont le président est Patrick Toulmet et Bernard Stalter. Ils vont emmener une centaine d'artisans bénévoles métropolitains pour aller faire les réparations du quotidien, l'électricité, les toitures, bref, ce qui permettra aussi sur le terrain d'améliorer le quotidien des personnes qui ont eu à subir cet événement terrible.
Benjamin Griveaux, Emmanuel Macron a évoqué en fin de semaine un plan national de reconstruction qui sera déployé le plus rapidement possible, financé par un fonds d'urgence. Quand et comment ce plan de reconstruction et ce fonds d'urgence vont-ils se mettre en place ?
Ça, les éléments à nouveau doivent être déterminés en fonction de l'état des dégâts et on n'a pas encore de manière exhaustive. Mais moi, je souhaite par ailleurs faire un appel à l'ensemble des grandes entreprises et nous les mobiliserons. On a des acteurs en France importants dans le domaine du BTP et de la construction et chacun, s'il peut prendre sa part, devra le faire dans le cadre de ce plan de reconstruction.
Combien pour le plan de reconstruction et pour ce fonds d'urgence ?
À nouveau, tant que les éléments concrets sur l'état et des dégâts et des nécessités de reconstruction, tant que ça n'est pas établi, je peux difficilement vous donner un montant.
Il se passera quoi ? Pardon, je reformule ma question. Est-ce que l'État a mal anticipé les choses ? Alors qu'on savait que cette tempête serait catastrophique, il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui se disent il y a le principe de précaution, bon, l'État est passé totalement à côté.
Bon, dimanche soir dernier, il était en catégorie 3. Le lundi, il est en catégorie 4. Et le mardi midi, soit 14 heures avant l'impact, il est en catégorie 5. Moins de 14 heures avant l'impact. Évacuer 80 000 personnes qui pensent sérieusement que c'était même envisageable. Donc, j'entends ceux qui souhaitent ouvrir une enquête parlementaire. Jean-Luc Mélenchon, rien à craindre de cette enquête parlementaire. Et s'il souhaite le faire, nous en sommes d'accord sur le principe. Mais il faut un peu de dignité dans le moment. Manifestement,
on n'a pas le droit d'évaluer a posteriori une politique publique.
On a parfaitement le droit d'évaluer, et c'est même très sain d'évaluer une politique a posteriori. Je crois que dans les moments que nous vivons, un peu de dignité aurait été utile. Jean-Luc Mélenchon ne nous y a pas habitués, il est donc fidèle à lui-même.
De votre point de vue, tout s'est bien passé dans la réponse de l'État ?
À ce stade, en tout cas, selon les éléments dont nous disposons à ce stade, la réponse apportée par l'État a été la bonne. Je rappelle que d'ici quelques heures, 2 nouveaux escadrons de gendarmerie mobile seront présents sur site. Ce sont 220 personnes pour au total porter à plus d'1 millier de personnes les personnels qui seront présents sur site et que demain, un 3e escadron sera également mobilisé. Je rappelle également que l'île était difficilement accessible, l'aéroport étant très endommagé et que nous craignions une seconde tempête et un second cyclone, José, qui heureusement est passé à la distance suffisante des territoires qui ont été touchés.
Venons-en à un dossier économique, Benjamin Griveaux. Vous vous êtes insurgé contre les licenciements annoncés par Nokia. L'État ne restera pas inactif, avez-vous dit. Vous comptez faire quoi maintenant ?
Mais je vous annonce ce matin que jeudi, je recevrai l'ensemble des partenaires sociaux et les élus de ces territoires concernés, à savoir Lannion notamment, territoire de Lannion, territoire de Boulogne et de Paris-Saclay. Ça, c'est la première chose pour évaluer avec eux ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné. Nokia s'est engagé, suite au rachat d'Alcatel-Lucent en 2015 et 2016, à embaucher notamment 500 personnes dans les secteurs de la recherche et du développement. Manifestement, le compte n'y est pas. On ne peut pas dire, il y a moins de deux ans, au ministre de l'Économie et des Finances, qu'on va procéder à des embauches et deux ans plus tard, supprimer 600 emplois et ne pas avoir procédé aux embauches nécessaires. Donc, faire un état des lieux de la situation avec les partenaires sociaux et les élus jeudi prochain, et je recevrai ensuite dans la foulée la direction de Nokia France.
Qu'est-ce que vous pouvez faire exactement ?
À nouveau, j'ai besoin de savoir quelle est la réalité de la situation.
Vous
ne
la connaissez toujours pas ?
Non, à ce stade non, c'est pour ça que je reçois. Il faut d'abord discuter, dialoguer, concerter, comprendre la situation et ensuite prendre les actions nécessaires.
Est-ce que la réforme du Code du travail ne va pas faciliter ce genre de comportement, Benjamin Griveaux ?
Non, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Là, on est face à une entreprise qui, sciemment, n'a pas tenu la parole qu'elle avait donnée publiquement lors d'une opération de rachat. Ça n'a rien à voir avec la modification du Code du travail, dont je rappelle qu'il concerne à 90% les TPE et les PME de notre pays.
Il y a des choses pour les grandes entreprises aussi.
Oui, mais c'est d'abord pour les TPE et les PME. Je rappelle que on a réussi l'exploit d'avoir un code du travail qui à la fois ne protégeait pas bien les salariés et en même temps empêchait les entreprises de se développer. Il est quand même anormal qu'en France on ait trois fois moins d'entreprises de taille intermédiaire qu'en Allemagne, deux fois moins qu'en Grande-Bretagne ou qu'en Italie. Donc tout l'objectif de ces ordonnances, c'est donc à la fois de libérer pour les entreprises les capacités à embaucher et à se développer et aussi de mieux protéger les salariés.
Une dernière question avant de vous retrouver avec les auditeurs de France Inter. Est-ce que vous redoutez l'ampleur du défilé des feignants, comme l'appelle Jean-Luc Mélenchon ?
Vous savez, je laisse à Jean-Luc Mélenchon ces bons mots. Il se nourrit du mal et du malheur des gens. Ça fait 31 ans qu'il est élu et il n'a jamais varié sur ce sujet-là. Donc il n'y a rien à craindre. Moi d'abord, la liberté de manifestation, j'y suis très attaché et il est normal qu'on puisse manifester et c'est heureux. Venezuela, dont Jean-Luc Mélenchon est un adepte et un fan, manifestement, quand on est dans la rue pour contester le pouvoir, ou en tout cas exprimer son mécontentement, on va jusqu'à risquer sa vie. Ben, pas en France. En France, on peut manifester. Les gens ont parfaitement le droit de descendre dans la rue, dire le mal qu'ils pensent demain de ce projet d'ordonnance. Je rappelle que ce projet a été présenté dès l'élection présidentielle, qu'il a été présenté dans le cadre de la plateforme législative portée par les candidats de La République En Marche, et que, sauf erreur de ma part, il y a une majorité politique pour le soutenir.
Et fainéant, c'était un bon terme pour décrire la situation.
Écoutez, vous savez très bien que fainéant ne s'adressait pas aux Français, mais s'adressait aux gens qui, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen ou Éric Ciotti ce week-end, les fainéants, les cyniques et les extrêmes, voyez, on a eu la preuve par l'exemple ce week-end. Ce sont ceux qui ont fait que ce pays, depuis 30 ans, n'a pas bougé. N'a pas su mettre en place des réformes parfois difficiles. Je vous prends un seul exemple. On n'a pas retenu de ce déplacement à Athènes et des jours qui ont précédé la proposition d'Emmanuel Macron sur les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, c'est la première fois qu'un président de la République française fait de l'Europe sociale très concrète. Je suis certain que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen avaient beaucoup à dire pendant la campagne présidentielle sur les travailleurs détachés. Qu'ont-ils fait ? Rien.
Benjamin Griveaux, à tout de suite après la revue de presse sur Inter.